Et c'est avec vous, Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La Renaissance française, l'indispensable cohésion nationale et un humanisme qui doit aussi être efficace. Voilà pour les grands mots prononcés hier par Emmanuel Macron pour les premiers vœux aux Français de son quinquennat. Au-delà de ces mots, nous allons consacrer à leur décryptage une bonne partie de cette édition avec Stéphane Robert et Sophie Delpont du service politique de France Culture et puis avec notre invité, le politologue Bruno Cotterès. Vœux de solidarité et d'accueil pour les plus fragiles au cœur cette fois de l'homélie du pape François en ce premier jour de 2018. Nous y reviendrons avec Olivier Tosseri depuis le Vatican. Le pape François qui se garde bien d'évoquer la situation en République démocratique du Congo, où l'église catholique pourtant est en première ligne dans les manifestations contre le président Joseph Kabila. Des cortèges qui partent des églises, des prêtres et des enfants de cœur interpellés. Un mélange des genres que nous détaillera Valérie Crova. En Iran, la contestation sociale et politique a contaminé la capitale Téhéran hier. Sans leader, sans slogan bien défini, mais avec une colère spontanée qui essaime depuis 4 jours à travers tout le pays. Les appels au calme du président Rouhani hier ne semblent pas en mesure de calmer le jeu. C'est ce que nous dira Éric Biégala. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les vœux d'un des hommes les plus marquants de 2017, qu'on le veuille ou non, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Entre menaces nucléaires répétées et discours de réconciliation avec le Sud autour des prochains Jeux Olympiques d'hiver, ce sera une analyse de Marie-Pierre Véro. Enfin, en Russie, l'État va verser à compter de ce jour une prime aux familles pour la naissance de leur premier enfant. Il faut dire que si la courbe démographique ne s'inverse pas. En 2035, la population russe va avoir perdu 1 million d'habitants. Nous joindrons Jean-Didier Revoin à Moscou. Pas de grande disruption, mais un exercice de style finalement très convenu. Emmanuel Macron prononçait hier soir 20h les premiers vœux de son quinquennat. 7 mois après son arrivée au pouvoir, il a passé très peu de temps finalement sur le bilan de 2017, année du choix selon lui, ce choix démocratique qui l'a amené au pouvoir. Le chef de l'État a voulu avant tout se projeter dans la suite, cette année 2018 qui devrait être celle de l'action de nouvelles réformes. On va y revenir un peu plus tard. Mais tout d'abord, nous saluons Stéphane Robert du service politique de France Culture. Bonjour Stéphane.
Bonjour Camille.
Des vœux présidentiel où Emmanuel Macron a joué sur deux tableaux en même temps, en quelque sorte. On l'a vu faire l'éloge de la cohésion du peuple français et de son dépassement au sein d'une citoyenneté européenne.
Oui, d'abord Emmanuel Macron a fait ce diagnostic que l'une des principales menaces qui pèsent sur la société française, c'est l'absence de cohésion nationale.
L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires. Les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018.
Est-ce qui doit, selon lui, permettre de maintenir et de renforcer cette cohésion nationale? C'est l'école, l'éducation, donc la culture, notre patrimoine commun, dit le président. Et puis l'encouragement au travail, parce que c'est comme ça, selon lui, que le pays va progresser et s'enrichir. Et il invite tous les Français à se retrousser les manches pour y parvenir. Parallèlement, vous le disiez, Emmanuel Macron en a appelé au dépassement de la citoyenneté française en s'adressant à ses concitoyens européens.
Chers concitoyens européens, j'aurai besoin cette année de vous. Je souhaite en effet que par ces consultations citoyennes, vous puissiez vous exprimer et permettre à vos gouvernants de dessiner un grand projet. Nous avons besoin de retrouver l'ambition européenne, de retrouver une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Je crois très profondément que l'Europe peut devenir cette puissance économique, sociale, écologique et scientifique qui pourra faire face à la Chine, aux États-Unis, en portant ces valeurs qui nous ont fait, qui sont notre histoire commune.
Emmanuel Macron fait la référence au discours qu'il avait prononcé fin septembre à Athènes, au cours duquel il avait annoncé vouloir lancer une vaste consultation européenne avant les élections de 2019. On a donc là un appel à renforcer la cohésion nationale et à la fois un appel à dépasser ce sentiment d'appartenance à la communauté française qui doit aussi, selon le président, se doubler du sentiment d'être citoyen européen. On est donc clairement dans le « en même temps macronien ». Je n'ai pas un, mais il est complexe et multiple.
Et là, clairement, on se demande, est-ce que tout ça est conciliable, Stéphane ?
Parce que le renforcement de la cohésion nationale, ça passe par le développement de ce qui fait socle commun, culture, éducation, solidarité. Or, parallèlement, pour favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne, il y a la volonté chez Emmanuel Macron d'harmoniser un certain nombre de politiques, ce qui passe notamment par le respect de la sacro-sainte règle des 3% de déficit portée par l'Allemagne. Et ça, pour un pays comme le nôtre, qui a considérablement mis l'accent sur les politiques de solidarité. Ça se traduit par un certain nombre de coupes budgétaires, ce qui peut politiquement être perçu comme une forme de négation de ce qui fait là ou les spécificités françaises. Et donc, maintenir la cohésion de la société tout en portant un discours disruptif, c'est toute la contradiction que porte le président Macron. On a eu un autre exemple hier soir de ce « en même temps » qui peut apparaître contradictoire porté par le chef de l'État lorsqu'il a repris les mots de John Fitzgerald Kennedy. On attend beaucoup en France de la puissance publique, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays, a dit hier soir Emmanuel Macron.
Stéphane Robert, vous restez avec nous. On va voir ensemble ce qu'en dit à présent l'invité de ce journal en ligne avec nous, Bruno Cotresse. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Cotresse, politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF Sciences Po. Alors, c'est quelque chose qui vous a marqué, vous, dans ses voeux d'Emmanuel Macron hier soir, cette insistance sur un discours finalement assez nationaliste, je ne sais pas, c'est vous qui le direz, et un élargissement européen. Tout ça peut s'articuler dans une logique macronienne ?
Dans la logique macronienne, oui. Emmanuel Macron, depuis sa campagne, au fond, ne cesse de dire qu'il n'y a pas, selon lui, antinomie entre la dimension européenne et la dimension nationale. D'ailleurs, dans la campagne de l'entre-deux-tours, il avait renvoyé Marine Le Pen en disant « ben moi, c'est aussi moi qui défends la nation française ». Et finalement, on va retrouver là quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'Emmanuel Macron. Alors, il faut savoir, par exemple, que lorsque l'on demande aux Français de quel, au fond, ils se sentent plus proches, est-ce que c'est plutôt leur identité nationale ou européenne. La réponse majoritaire en France, il y a plus de la moitié des Français qui se déclarent à la fois Français et Européens. Français d'abord, Européens ensuite. Et on voit qu'à travers ça, eh bien Emmanuel Macron essaye d'une certaine manière peut-être de solder ce qui s'était exprimé en France lors du référendum de 2005. C'était un référendum où était apparue une forte bataille d'interprétation gauche-droite sur la question de l'Europe, des politiques européennes, de la direction de l'Europe. Et on voit qu'Emmanuel Macron, eh bien, essaye coûte que coûte de revouer et d'affirmer fortement le deuxième tour qu'il a opposé à Marine Le Pen avec, d'un côté, les pro-européens et de l'autre côté, ceux qui ne souhaiteraient pas davantage d'Europe.
Alors justement, vous rappelez le contexte de l'élection. Cet exercice auquel s'est livré le président hier soir, comment vous l'avez compris, vous, à qui, selon les mots choisis, est-ce que le chef de l'État s'adressait, selon vous ?
Moi, j'ai trouvé très intéressant hier qu'entre les lignes, il y avait une dimension très fortement politique d'Emmanuel Macron. Parfois, on dit que les vœux présidentiels, c'est un exercice convenu. Bien sûr que c'est un exercice convenu.
On en a eu la preuve, encore une fois.
Je lui ai trouvé quand même une dimension politique extrêmement forte. Emmanuel Macron n'a cessé d'employer des mots, des thèmes, et même l'ordre dans lequel il a abordé ces thèmes, pour s'adresser aux électeurs de centre-gauche, peut-être même de la gauche, qui ont trouvé peut-être que le début d'Emmanuel Macron, c'était trop à droite ou trop au centre-droit. Il a employé hier de nombreuses fois le thème de l'école, de la formation, les quartiers populaires, la solidarité, l'égalité homme-femme. Le mot protection est revenu également à de nombreuses reprises. Et on voit un Emmanuel Macron qui était hier dans un exercice d'essayer de corriger sur sa gauche l'image de ces 8 premiers mois de mandat.
Alors justement, Bruno Cotresse, parmi les mots adressés certainement à une France de gauche et de centre-gauche, il y a le mot social, axe central parmi les axes en tout cas du discours présidentiel d'hier, avec cette année 2018 qui, on le sait, devrait voir mise en œuvre des réformes en profondeur de l'assurance chômage, des retraites, de la sécurité sociale. Et pour ce tout dernier dossier, il y a l'hôpital public, bien sûr, au cœur des réflexions. On en parle avec vous. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
L'hôpital public, donc, autour duquel l'Élysée et Matignon déjà déploient depuis quelques mois un argumentaire pour justifier des réductions de budget et d'effectifs.
Oui, c'est une petite musique dont la partition est jouée avec brio depuis le mois d'octobre dernier. Un peu comme si on voulait convaincre l'opinion publique qu'il faut baisser le montant versé à l'hôpital public, avec en ligne de mire un objectif, réduire de 2,2 milliards d'euros le budget de la sécurité sociale cette année pour atteindre l'équilibre en 2020. L'Assemblée nationale planche sur le sujet depuis le 24 octobre dernier. Deux jours avant ce 24 octobre dernier, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avait présenté des pistes de réflexion dans un entretien au journal du dimanche pour le budget de l'assurance maladie. Il existe, selon la ministre, une marge de manœuvre énorme, selon ses mots, car toujours selon Agnès Buzyn, 30% des dépenses de l'assurance maladie ne sont pas pertinentes. Un chiffre non sourcées à l'époque. Un mois plus tard, le 26 novembre dernier, une étude de la Fédération hospitalière, l'administration des hôpitaux, corrobore ce chiffre dont la ministre avait déjà connaissance en octobre, avec un sondage dans lequel 88% des médecins reconnaissent pratiquer des soins inutiles ou non justifiés après coup. Des médecins piégés, car on ne tient pas compte du retour sur expérience. Une césarienne, par exemple, peut être décrétée en urgence et on peut se rendre compte après coup que ce n'était peut-être pas la meilleure solution, un acte qui peut être qualifié d'injustifié, mais qui n'a rien de scandaleux, réagissent certains syndicats. Est-ce qu'on s'imagine qu'on s'amuse à opérer inutilement des enfants qui ont des problèmes de genoux ou de la colonne vertébrale, s'insurge un chirurgien interrogé, pour qui il est clair que le gouvernement souhaite baisser encore l'argent versé à l'hôpital public, déjà en burn-out, et dans lequel des lits sont supprimés chaque année. Une mise à mort programmée du service public hospitalier, selon toujours ces médecins interrogés, avec l'assentiment des citoyens qui plébiscitent largement la fin de ces fameux soins inutiles dans un sondage publié lui aussi fin novembre.
Sophie Delpont, merci à vous. Nous sommes toujours en ligne avec notre invité Bruno Cotterès du CEBIPOF. Pour la mise en œuvre de ces réformes sociales sur lesquelles Emmanuel Macron a mis l'accent hier soir, il a affiché à nouveau sa détermination avec toujours cette posture de légitimité qui dit « moi au moins je fais ce que j'ai promis pendant la campagne ». C'est une posture qui est tenable selon vous sur le long terme, Bruno Cotterès ?
Alors d'abord, je dirais que cette posture de « je fais ce que j'ai dit pendant ma campagne électorale », Emmanuel Macron ne cesse, et son gouvernement ne cesse de venir sur ce terrain. Il faut peut-être prendre des choses avec un peu de recul. Mmh. Lorsqu'on regarde les débuts de quinquennat des deux prédécesseurs, par exemple Nicolas Sarkozy ou François Hollande, on voit qu'aussi ils avaient mis au cours des premiers mois, des 6-8 premiers mois, de nombreux points de leur programme et dans leur premier vœu, 31 décembre 2007 pour Nicolas Sarkozy, 31 décembre 2012 pour François Hollande, eh bien eux également, ils insistaient beaucoup sur les premières mesures mises en œuvre. Alors Emmanuel Macron joue gros là-dessus.
Il surjoue, à votre avis ?
Alors, il y a peut-être effectivement un peu de surjeu dans ça. Il n'est quand même pas le premier président à mettre en œuvre des éléments importants de son programme de campagne électorale. Et donc, il y a effectivement un petit peu de surjeu de ce point de vue-là.
Une autre posture qu'on a pu revoir encore poindre hier, c'est celle de la concertation. On voit que l'exécutif, depuis 8 mois, met toujours en scène cette grande discussion avec chaque secteur avant chaque grande réforme. Emmanuel Macron, hier soir, dit qu'il écoutera toujours ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais que ça ne l'empêchera pas d'agir. En clair, beaucoup d'acteurs du monde social ont décrypté ça comme un « cause toujours, tu m'intéresses ». C'est ça qu'il fallait comprendre, selon vous ?
Alors, peut-être que ça, c'est un peu aller vite en besogne de dire ça. Mais on retrouve là, à travers cette rhétorique d'Emmanuel Macron, eh bien, la volonté d'incarner à la fois l'horizontal et le vertical. Emmanuel Macron navigue en permanence entre ces deux dimensions, celui qui est proche, celui qui va au contact, comme il l'a dit depuis sa campagne électorale, et en même temps, celui qui est dans le vertical, qui décide. Et effectivement, le risque, c'est d'apparaître au bout d'un moment comme celui qui fait de la pseudo-concertation.
Une question de Stéphane Robert.
Oui, on en parlait tout à l'heure, mais vous disiez qu'il a mis beaucoup l'accent sur le social hier soir, comme une volonté de donner des marqueurs à gauche. Il a parlé même hier soir de grands projets sociaux. Est-ce que c'est tenable dans les faits, ça, et sur le long terme, à votre avis ?
Tout dépend, bien sûr, de ce qu'on va entendre par grand projet social. Au cœur de la démarche d'Emmanuel Macron, il y a une idée qui est à la fois très simple et assez forte. Cette idée simple et assez forte, c'est qu'au fond, le modèle de l'État-providence tel qu'il s'est développé dans la France de l'après-Deuxième Guerre mondiale a donné à plein jusque dans les années peut-être 70-80 et que d'après lui, à un moment donné, ce modèle s'est mis à créer de nouvelles formes d'inégalité auxquelles il entend lui s'attacher. Donc évidemment, tout dépend quelle interprétation on va faire d'une grande réforme sociale.
Bruno Cotterès, merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal. On va vous souhaiter une bonne année également en ce 1er janvier. Je rappelle que vous êtes donc politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF Sciences Po. France Culture, il est midi passé de 43 minutes et parmi les autres grands thèmes abordés dans ses vœux présidentiels, il y avait aussi la question migratoire. Un Emmanuel Macron qui redit sur un ton rocardien que notre pays ne peut pas accueillir tout le monde, qu'il faut allier humanisme et efficacité. Voilà qui devrait donner à réfléchir aux associations qui viennent en aide sur le terrain aux migrants et qui dénoncent depuis des semaines le durcissement de notre politique en matière d'immigration. Un sujet de l'accueil des exilés dans nos sociétés qui était justement au cœur des déclarations et de l'homélie du pape François au Vatican en ce 1er janvier pour sa première messe de l'année suivie. Et depuis Rome pour France Culture par Olivier Tosserie.
Le porte-parole de tous ceux qui invoquent pour leur futur un horizon de paix, c'est ce que veut être le pape en pensant avant tout aux migrants et réfugiés qui fuient leur pays ravagé par la guerre. Lors de sa traditionnelle messe du 1er janvier au Vatican, François a appelé à ne pas éteindre l'espoir dans leur cœur ni étouffer leurs attentes. Il demande des actes concrets aussi bien aux institutions politiques, à la société civile ou encore aux différentes associations afin qu'elles assurent aux migrants et réfugiés un avenir de paix. Comme il a exposé dans son message pour la Journée mondiale de la paix, il enjoint la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies à adopter cette année deux pactes, l'un pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières, l'autre pour les réfugiés, afin de protéger leurs droits et leur dignité. Il n'a cessé de le répéter tout au long des célébrations de Noël. Ces femmes, ces hommes et ces enfants sont disposés à affronter des voyages fatigants et périlleux pour sauver leur vie. Des voyages qui se finissent trop souvent en tragédie. Son principal vœu pour l'année 2018 est celle d'un monde plus accueillant et plus solidaire.
Olivier Tosserier, l'Église catholique en première ligne, cette fois en République démocratique du Congo, Kinshasa, où le mouvement de contestation contre le président Joseph Kabila s'est soldé hier par de nouvelles arrestations et par la mort de 8 personnes. Au moins une centaine de protestataires ont été arrêtés. On le rappelle, ils réclament le départ du président Joseph Kabila, qu'ils accusent de jouer avec la Constitution pour se maintenir au pouvoir un mandat de plus. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Chose notable donc, les marches pacifiques d'hier et de ces derniers jours sont parties d'églises catholiques et de prêtres, des enfants de cœur également font partie des centaines de personnes interpellées.
Oui, et ce n'est pas étonnant, Camille, dans la mesure où l'église catholique représente environ 35 millions de fidèles en RDC, soit plus de 40% de la population qui est en majorité chrétienne. Pour bien comprendre la situation, il faut remonter au mois de juin dernier, quand la conférence épiscopale congolaise a adressé un message très sévère au président Kabila. Dans ce message, les évêques dénonçaient la détérioration continue de la situation économique, sécuritaire et humanitaire dans lequel le pays est plongé suite au refus de Joseph Kabila d'organiser des élections conformément à la signature de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Cet accord avait été conclu l'an dernier après de longs mois de négociations menées sous l'égide de l'Église catholique entre le pouvoir et l'opposition pour sortir le Congo de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis le report sine die de l'élection présidentielle prévue initialement en décembre 2016. Pour autant, la très puissante conférence épiscopale congolaise n'a pas soutenu officiellement les marches d'hier, mais ne les a pas non plus condamnées. Il faut savoir que les évêques congolais défendent depuis plusieurs mois le droit de manifester pour libérer l'espace démocratique mis à mal par le régime de Joseph Kabila. Celui-ci n'a de cesse de réprimer les opposants et n'hésite pas à recourir à la force pour les faire taire, comme on l'a vu hier quand leur leader, Félix Tshisekedi, est arrivé à la cathédrale Notre-Dame du Congo, la principale église de la capitale Kinshasa. Alors, dans un message enregistré hier, le président Kabila a appelé, non sans une certaine dose d'ironie, à barrer la route à ceux qui chercheraient à interrompre le processus démocratique en cours. Il a par ailleurs affirmé que l'échéancier qui prévoit la tenue de la présidentielle fin 2018 conduirait vers l'organisation des élections, mais les manifestants, eux, continue de demander à Joseph Kabila de ne pas se représenter pour un troisième mandat.
Valérie Crova, merci pour toutes ces précisions. L'autre foyer de contestation qui concentre nos préoccupations internationales depuis quelques jours, c'est l'Iran, une fronde populaire que personne, à vrai dire, n'avait vu venir et qui voit depuis jeudi à chaque fois des centaines d'Iraniens descendre dans les rues pour dénoncer pêle-mêle la vie chère, la corruption endémique de la République islamique, les promesses non tenues de l'accord sur le programme nucléaire l'an dernier ou encore le pouvoir des mollahs et des gardiens de la révolution. Avec nous pour faire le point en studio, Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Camille.
Éric, l'Iran n'avait pas vu une telle agitation politique dans ses rues depuis 2009. Les manifestations contre la réélection émaillées de fraude de Mahmoud Ahmadinejad. Sauf que la comparaison avec le mouvement actuel s'arrête là.
Oui, en 2009, c'est la réélection plus que douteuse de Mahmoud Ahmadinejad au poste de président qui avait déclenché des manifestations très importantes. Plusieurs millions d'Iraniens étaient descendus dans la rue, mais le mouvement était parti des opposants à Ahmadinejad, les réformistes, qui avaient eu tout simplement l'impression de s'être fait voler l'élection, et socialement plutôt des classes moyennes éduquées vivant dans les centres urbains principaux du pays, notamment à Téhéran. L'actuel mouvement de protestation, en revanche, a pris naissance en province, dans des villes moyennes, voire de petites communes. Tout est d'ailleurs parti jeudi dernier, semble-t-il, d'une manifestation organisée à Mashhad, dans le nord-est du pays, et par les conservateurs, une manifestation contre l'actuel président réformiste, Hassan Rouhani, mais qui a très vite dégénéré en protestation beaucoup plus large, visant non seulement le gouvernement, mais le régime lui-même, les slogans conspuant aussi bien les réformistes de Rouhani que les ultra-conservateurs, mais aussi la corruption généralisée, le guide suprême Ali Khamenei, les gardiens de la révolution, ou la politique étrangère du pays, notamment l'appui donné par Téhéran à la Syrie de Bachar al-Assad ou au Hezbollah libanais. De Machad, les manifestations ont vite essaimé un peu partout, dans pratiquement toutes les provinces, depuis le Sistan-Balouchistan, près de la frontière pakistanaise, à l'extrême sud-est, jusqu'à l'Azerbaïdjan oriental, complètement de l'autre côté du pays, sur la frontière turque, et en passant par la capitale Téhéran ou le centre religieux de Qom. Manifestations qui ont l'air spontanées, qui peuvent rassembler seulement quelques centaines de personnes, ou plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, qui ont parfois dégénéré en émeutes, des bâtiments ou des véhicules affiliés à la milice Basidji ou aux gardiens de la révolution ont été incendiés. Pas de leader dans ces manifestations, pas de mot d'ordre unique non plus. Cela varie de simples revendications économiques à d'explicites appels à la révolution et à la fin d'un régime de république islamique en place depuis 38 ans. En face, le dit régime a déjà fait charger ses rassemblements par la police anti-émeute et parfois par les miliciens Basidji. Dispersion effectuée à coups de bâton et de canon à eau, mais à certaines occasions, on a aussi ouvert le feu sur les foules. Ce matin, la télévision publique iranienne évoquait le chiffre de 10 morts dans les seules manifestations d'hier.
Éric Biegala, merci à vous. Lui n'est pas prêt de laisser se développer une telle fronde dans sa population. En Corée du Nord, Kim Jong-un n'a pas dérogé lui non plus à la tradition des vœux de nouvelle année. L'homme fort de Pyongyang en a profité pour rappeler que 2017 avait fait de son pays une véritable puissance nucléaire. Il a d'ailleurs bien insisté sur le fait qu'il a le bouton de la force de frappe atomique sur son bureau, une main sur le détonateur donc, et une autre tout de même tendue vers la Corée du Sud. Et c'est ça qui peut surprendre dans ses vœux. Marie-Pierre Véraud, Kim Jong-un évoque un rapprochement avec Séoul à l'occasion des prochains JO d'hiver.
C'est en effet suffisamment rare pour être souligné, rompant avec l'habituelle rhétorique enflammée visant son voisin du Sud. Kim Jong-un tente en effet la main à Séoul, envisage une participation d'athlètes nord-coréens aux JO d'hiver du mois prochain, qui se tiendront à moins de 100 km de la frontière scindant la péninsule, et appelle à tourner le dos au passé pour améliorer les relations entre les deux Corées. Deux patineurs nord-coréens ont été sélectionnés, ils pourraient donc faire le voyage au Sud pour des jeux que le comité organisateur veut qualifier d'Olympiade de la paix. Séoul, qui par ailleurs souhaiterait reporter les manœuvres militaires prévues avec les États-Unis fin février, des exercices toujours mal vécus par Pyongyang, qui y voit les préparatifs d'une éventuelle invasion. Alors, pourquoi une telle ouverture envers la Corée du Sud? Ce pourrait être en effet des sanctions économiques durcies ces derniers mois après les essais nucléaires et balistiques nord-coréens. Pyongyang chercherait ainsi un allié. Il pourrait aussi s'agir d'une réponse aux États-Unis de Donald Trump et aux déclarations belliqueuses de ce dernier, qui cherche justement à isoler la Corée du Nord. Ce sont alors les Américains qui se retrouveraient marginalisés par un éventuel rapprochement entre les deux Corées. Toujours est-il qu'à l'encontre de Washington, le ton reste à la menace. Ce bouton nucléaire, vous en parliez, toujours sur son bureau. Des missiles capables d'atteindre, affirme Kim Jong-un, l'ensemble du territoire américain, ce que les spécialistes ne confirment pas. C'est un fait, assène-t-il, pas une menace, assurant que son pays était une puissance nucléaire pacifique et responsable, et développe un arsenal à usage purement défensif. Une rhétorique là aussi assez habile. Il n'en reste pas moins que, discours ou pas, l'année 2017 aura démontré qu'il fallait plus que jamais compter avec les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et que l'état d'avancement de son programme a changé les termes d'une négociation avec la communauté internationale.
Merci Marie-Pierre Véraud. On verra si l'année 2018 est celle de la diplomatie du patinage artistique. Cette fois, ce n'est pas un vœu mais un oukase présidentiel. En Russie, Vladimir Poutine veut enrayer la baisse de la natalité. Il a donc décidé d'accorder à partir d'aujourd'hui une allocation aux familles russes pour la naissance de leur premier enfant. Une incitation financière donc dans un pays qui pourrait perdre jusqu'à 1 million d'habitants en 2035 si sa démographie ne s'inverse pas. Les explications depuis Moscou de Jean-Didier Revoin.
Depuis le 1er janvier 2018, les familles russes qui auront leur premier enfant toucheront une allocation mensuelle de près de 150 euros pendant 18 mois, sachant qu'en Russie, le salaire moyen est d'environ 505 euros. Cette mesure décidée par Vladimir Poutine sera assortie d'une aide qui permettra à ces familles d'obtenir un crédit immobilier et pourra être cumulée avec la prime maternelle d'environ 9500 euros. Cette prime est attribuée pour toute naissance ou adoption à partir d'un deuxième enfant, mais ne peut être utilisée que dans des cas bien précis, rembourser un prêt, construire ou rénover une habitation, payer la crèche, les frais d'université ou certains services médicaux. Depuis les années 90 et la désagrégation de l'Union soviétique, la population russe diminue en vertu de facteurs objectifs, expliquent les démographes. À cause du faible nombre de personnes nées dans ces années de crise, les femmes en âge de donner naissance à un enfant sont actuellement moins nombreuses, faisant ainsi mécaniquement baisser le taux de natalité. La période 2013-2016 constitue néanmoins une exception notable, mais en 2017, la situation s'est dégradée. Selon l'agence statistique d'État russe Rostat, de juin à octobre 2017, le nombre de décès a dépassé celui des naissances de 100 000 unités, effaçant du même coup la hausse naturelle de la population constatée depuis 2013. Depuis son accession au pouvoir, Vladimir Poutine s'est toujours préoccupé du déclin démographique du pays, mais en cette année électorale, il ne rechigne pas à sortir le carnet de chèques pour plaire aux électeurs qui apprécient particulièrement ses incitations directes, même si de l'aveu des spécialistes, les aides financières à elles seules ne permettent pas de relancer la natalité.
Jean-Didier Revoin à Moscou pour France Culture. La météo de ce 1er janvier, enfin polarisée, il faut bien le dire, par le passage de la tempête Carmen sur une grande partie ouest du territoire. 40 départements sont en alerte orange, 40 000 foyers privés d'électricité en ce moment en Bretagne. Et hier, un homme est mort quand un arbre est tombé sur sa voiture à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Des rafales de vent à plus de 130 km/h ont été relevées ce matin sur la pointe bretonne. Mais Carmen devrait encore prendre de l'ampleur dans l'après-midi sur toute la façade atlantique, allant même jusqu'à secouer la Corse en fin de journée. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon. À 18h, vous retrouverez Aurélie Kiefer pour l'info.